Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Valérie Gasse.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique. Nous recevons ce soir Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Bonsoir Thierry Mandon.
Bonsoir.
À mes côtés, pour vous interroger, Laure Breton de Libération. Bonsoir Laure.
Bonsoir.
Et Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir Valérie.
Alors Thierry Mandon, François Hollande s'est rendu aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, dans des quartiers défavorisés, pour parler de rénovation urbaine et manifester la volonté du gouvernement de lutter contre les inégalités. La semaine dernière, Manuel Valls s'était exprimé devant la Fondation Jean Jaurès pour évoquer lui aussi cette thématique et rappeler que l'égalité, c'est le marqueur de gauche par excellence. Alors Thierry Mandon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une offensive à gauche toute pour aborder la seconde partie du quinquennat ?
Oui, probablement, à la fois par une double nécessité, celle de redonner du sens à l'action gouvernementale, parce que on peut pas gouverner seulement en expliquant qu'on réduit des déficits, ce qui d'ailleurs est pas facile à faire, que notre préoccupation exclusive c'est la macroéconomie. Ça suffit pas à faire partager le sens de l'action gouvernementale aux citoyens, à commencer par aux citoyens de gauche. Et puis, oui aussi, parce que même si le quinquennat ne se déroule pas tout à fait comme cela avait été prévu, il a toujours été dit que après 2 ans d'efforts économiques, viendrait le temps d'une réorientation sociale du quinquennat, donc on y est.
Et donc là, il faut quoi ? Il faut reparler à des électeurs déçus, les remobiliser, c'est ça ?
Il faut d'abord agir. Il faut d'abord agir, parler bien sûr, mais surtout agir. Ce matin, le président de la République est allé inaugurer une nouvelle politique en direction des quartiers en difficulté, avec beaucoup d'argent, 5 milliards d'euros. Mais il a surtout donné un nouveau contenu à cette politique. C'est ce qui est intéressant. C'est pas la politique d'hier seulement, avec des efforts sur l'urbanisme et sur le logement. C'est une politique qui intègre beaucoup plus la question économique comme au cœur des traitements des difficultés de ces quartiers, qui relance la question sociale. Donc il faut agir et parler en même temps. Rien ne serait pire que ce discours qui se gauchit ne soit qu'un discours, une posture. Il faut que ça s'ancre dans des réalisations, dans des politiques concrètes et réelles. C'est ce qu'essaye de faire le président.
Roselyne Fèvre.
Oui, mais est-ce que c'est pas plus un retour à gauche ? Parce que dans le fond, François Hollande se rend compte que sa politique sociale libérale ne donne aucun résultat. Il sent que les Français ne comprennent plus rien, dans le fond, à la politique fiscale, que la dette est abyssale. Et par conséquent, c'est une sorte de calcul politique pour 2017. C'est revenir à ses fondamentaux, revenir dans sa famille, dont certains et beaucoup considèrent qu'il s'en était éloigné.
Je ne crois pas qu'il y ait de changement de cap. En tout cas, dans la politique elle-même, il n'y a pas de changement de cap. À peu près à quelques jours d'intervalle, vous avez cet effort en direction de la politique de la ville et vous avez en même temps la loi Macron, qui est une loi, de mon point de vue, de gauche, moderne
et
de gauche, bien sûr. Oui. Mais je ne crois pas qu'il y ait de changement de cap. En revanche, il y a la prise en compte qu'un effort d'explication du sens de l'action gouvernementale est indispensable. Je pense que les 2 premières années étaient des années beaucoup trop économisme. On était dans l'économisme. On n'a parlé que d'économie, on n'a parlé que de ratios, on n'a parlé que de chiffres, on n'a parlé que de tableau Excel.
C'est en même temps ce que les gens attendent.
Je suis pas sûr.
Les résultats économiques.
Pas sûr. Vous faites un pays a quand même besoin de comprendre quelle valeur sert l'action publique. Quel projet politique est au cœur des principales décisions. Donc, c'est ça le nouveau cours.
Donc, c'est un calcul quand même politique pour 2017. C'est-à-dire, on revient petit à petit vers sa famille d'origine.
Oui, mais je ne crois pas qu'il y ait de changement de ligne, encore une fois. Mais il y a un discours, c'est vrai, qui est beaucoup plus formulé en direction du cœur de l'électorat de gauche. Mais d'une certaine manière, tout ça est bien normal. L'électorat de gauche est un électorat populaire. On sait que cet électorat est aujourd'hui en grande difficulté, très troublé, et on a besoin de stopper l'hémorragie, s'il n'y a pas d'autre mot, dont les précédentes élections ont témoigné, de l'électorat populaire. Et quand cet électorat disparaît, il reste chez lui, voire il est mûr pour toutes les aventures. Donc on a besoin de parler, de s'adresser à cette catégorie-là de la population.
Laure Breton.
En même temps, vous le rappeliez, le candidat Hollande puis le président Hollande avait parlé de 2 temps dans le quinquennat, mais lui parlait à cette époque-là d'un deuxième temps qui serait celui de la redistribution. Vous dites maintenant de la réorientation sociale. Les caisses sont toujours vides, donc comment faire autrement ? On l'a entendu hier parler, par exemple, du droit de vote des immigrés. Il n'a pas les moyens politiques de le faire, mais il n'a pas non plus les moyens économiques de redistribuer et de réattirer des résultats économiques bénéficiant au cœur de votre électorat.
Au sens classique de ce qu'a trop longtemps été la gauche, c'est-à-dire seulement une politique de redistribution, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de redistribuer massivement. En revanche, nous avons tout à fait les moyens, par la réforme, de trouver des nouvelles articulations entre les efforts économiques et les progrès sociaux. De ce point de vue-là, nous parlerons de la loi Macron tout à l'heure. On a un exemple, de mon point de vue, de ce que peut être une politique de gauche moderne. Une politique qui refuse les situations de rente et des gens qui sont installés, qui les bouscule pour laisser de la place à des nouveaux entrants. Donc il faut trouver un nouveau contenu social par la réforme à la politique. Et ça implique, c'est ce qu'a très bien expliqué le Premier ministre l'autre jour, il a, devant la Fondation Jean Jaurès, qui est le club de réflexion du Parti Socialiste, il a fait un long discours sur l'égalité, un grand discours sur l'égalité, où il a dit notre choix maintenant, c'est la prédistribution.
Il a lancé le concept.
C'est un concept, on est dans des choses bien sûr un peu abstraites pour l'électorat populaire, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut réformer en ayant à l'esprit le souci d'une plus grande égalité réelle. Dans les faits, anticiper des réformes, pas forcément donner plus de gens après les prélèvements fiscaux et sociaux, mais associer autrement les gens à la production et de manière plus égalitaire.
Mais ça veut dire que, étant donné qu'il n'y a toujours pas, je reviens là-dessus, oui, il n'y a pas d'argent supplémentaire, comment vous abandonnez la lutte contre les inégalités?
Non, pas elle-même du tout. Non, pas du tout. Demain, par exemple, va être annoncé un plan sur l'éducation prioritaire qui recentre très fortement les moyens de l'éducation prioritaire sur les quartiers les plus en difficulté. 200 quartiers extrêmement aidés, 200 autres quartiers dont les moyens vont être renforcés. C'est typiquement ça, une politique de prédistribution.
C'est d'ailleurs là-dessus que Manuel Valls insiste lui aussi. C'est la prédistribution, oui, c'est la lutte contre les inégalités à la base.
Et à la source. Avant, si possible, qu'elles ne se produisent. Il y a quelques jours, nous étions à Lens, regarder les premiers effets d'un plan de lutte contre le décrochage scolaire. Donc, en concentrant des moyens sur des situations particulièrement difficiles, soit en curatif, lutte contre le décrochage scolaire, soit un préventif demain avec l'éducation prioritaire, on a une politique de lutte contre les inégalités réelle qui peut être efficace.
Rosine Favre.
Vous avez plusieurs fois employé le mot gauche moderne et j'avais lu dans une interview, vous disiez c'est indispensable qu'on essaye d'imposer une nouvelle gauche, réellement de gauche. Mais alors c'est quoi cette nouvelle gauche et c'était quoi l'ancienne gauche?
Est-ce que c'est la gauche de Manuel Valls?
Alors, ça fait beaucoup de questions en même temps, on va les serrer, mais c'est tout ça se tient, vous avez raison. Pour moi, la gauche, être réellement de gauche, c'est partir du réel. C'est pas partir de postures théoriques, abstraites, du monde, de vision du monde, avec des...
Idéal
d'une vision? Non, parce que l'idéal de être réellement de gauche, il n'y a sûrement pas plus bel idéal que celui-là, que de s'attaquer, de regarder vraiment les situations concrètes que vivent les Françaises et les Français, donc la réalité concrète, et d'essayer d'améliorer par la réforme cette situation concrète en ayant le souci permanent de l'évaluation concrète des résultats des politiques qu'on mène.
C'est la gauche pragmatique.
La politique a été trop longtemps, mais vous savez, c'est comme en économie, la politique a été trop longtemps macro-politique. Voilà. Elle considérait qu'une fois qu'elle avait pris des décisions qui étaient irriguées par des bonnes valeurs, de lutte contre les inégalités, de plus grande justice sociale, les problèmes étaient réglés. C'est pas comme ça que ça marche.
Je dirais plutôt que dans l'inconscient des socialistes, c'était gouverner, c'était trahir en quelque sorte. C'est-à-dire que les socialistes ont souvent eu un problème avec leur action gouvernementale.
Mais je suis pas certain que nous en soyons complètement débarrassés. En tout cas, c'est un débat au sein du Parti Socialiste aujourd'hui. Ça va d'ailleurs être un débat du Congrès. Il est clair qu'il y a, dans une certaine gauche, ce que des auteurs ont judicieusement appelé le long remords du pouvoir. L'idée, finalement, qu'on est bien mieux au chaud dans l'opposition.
L'ambition et le remords.
Dans nos communes, dans nos départements, qui sont embastillés comme des contre-pouvoirs d'un pouvoir d'État qui est négatif, et que cette tentation existe toujours à gauche.
Des communes, des départements, vous allez en avoir moins, et vraisemblablement. Et justement, on parle qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui? Est-ce que être de gauche, c'est aussi vouloir donner le droit de vote aux étrangers? C'est une question que François Hollande a évoquée hier dans son grand discours sur l'immigration, qu'on attendait beaucoup. C'est une promesse qui est un petit peu oubliée pour le moment. Et je vous propose d'écouter le président de la République et puis on en parle juste après.
Rien ne peut se faire sans une révision de la Constitution. Ce qui suppose dans notre droit une majorité des 3/5 au Parlement, c'est-à-dire l'accord de toutes les forces républicaines. J'y suis pour ma part favorable à elles de prendre leurs responsabilités.
Alors François Hollande qui appelle les forces républicaines à prendre leurs responsabilités, est-ce que c'est pas quand même un peu une manière de botter en touche par rapport à ses propres responsabilités, ses propres engagements de campagne?
Non, alors là pour le coup, nous avions une majorité au Parlement, on va essayer d'y travailler à nouveau. Si nous pouvions avoir une majorité, ce texte serait voté. Il n'y a aucune hésitation. La gauche est soudée sur le droit de vote des immigrés. Elle n'est pas soudée sur le droit de vote des étrangers. Comme ça, elle est soudée là aussi, comme vous le disiez, parce que être de gauche aujourd'hui, c'est aussi avoir un vrai projet démocratique. C'est vouloir faire rentrer dans la République ceux, parce qu'ils sont étrangers, ou parce qu'ils sont abstentionnistes, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans la vie politique québécoise, ceux qui n'ont pas la parole. Et c'est un des constituants de la gauche moderne.
Mais là, vous heurtez la gauche au pouvoir. Rosine en parlait. Ça fait 30 ans qu'on en parle de donner le droit de vote aux immigrés. Et la gauche, quand elle est au pouvoir, n'y arrive pas.
On ne fait pas ça en milieu de mandats. On fait ça au début, quand on arrive.
Mais on n'a pas pu. On a essayé. Vous savez qu'on a essayé. On avait même.
Mais c'est un gros échec.
Non,
ça.
Mais pas mollement. C'est pas mollement. C'est qu'on a fait le tour. Mais 3/5, c'est difficile à réunir. Il nous faut des forces politiques qui ne sont pas dans la majorité.
Il manque une vingtaine de voix que vous pouvez aller chercher au centre.
Il en manque un peu plus aujourd'hui.
Parce que le Sénat
est passé à droite. Oui. Donc il nous manque maintenant 30 à 35 voix. Et en effet, il faut que d'autres forces politiques que les forces de la seule majorité expriment le fait qu'elles sont prêtes à faire.
En début de mandat, le Sénat était à gauche et vous auriez pu aller chercher effectivement.
On a essayé. Alors après, peut-être que les choses n'ont pas été très bien faites, mais je ne crois pas. Je crois qu'on a sincèrement essayé et on a eu des fins de non recevoir le président de la République, avait même reçu les leaders des partis politiques à l'Assemblée et à l'Élysée. Nous n'avions pas réussi à trouver cette majorité.
Certains dans votre camp d'ailleurs disent de toute manière c'est une revendication à laquelle on aurait dû accéder dans les années 80, dans les années 90. Que maintenant, c'est plus une priorité, que ça concernerait très peu de gens. Est-ce que c'est votre conception? Parce que les associations disent que c'est une manière d'intégrer les grands-parents et les parents qui témoignera, qui servira aux enfants. Donc c'est un moyen d'intégration supplémentaire. Certains disent qu'il faut l'abandonner, de toute manière, ça ne concerne pas assez de gens.
Non, je pense que c'est un point très important, parce que dans les trois problèmes de la gauche contemporaine, de la gauche moderne, il y a donc les situations réelles des gens, la lutte contre les inégalités, il y a la croissance sur laquelle on a une vision erronée, et il y a la question démocratique. Le fait que de plus en plus nos démocraties sont des oligarchies où quelques pouvoirs des élites décident entre elles de ce qui est bon pour le pays, il faut faire rentrer dans la vie de la République des couches sociales ou des gens qui sont d'origine étrangère pour les élections municipales, qui en sont exclus. C'est comme ça qu'on revivifiera la République et la démocratie.
En même temps, là vous dites des oligarchies, il y a un sondage récent qui dit que les Français maintenant sont majoritairement hostiles au droit de vote des étrangers, alors qu'il y a en 2011, je crois, ils étaient 60% à être favorables. Alors, est-ce que c'est pas un constat d'échec pour la gauche? Non seulement vous ne le faites pas passer, mais en plus, maintenant, globalement, les Français sont contre.
C'est un constat que quand on mène pas les combats, on est sûr de les perdre.
Et donc, vous ne l'avez pas mené, ce combat. François Hollande ne l'a pas mené, ce combat.
Écoutez, il mérite d'être mené. La pédagogie mérite d'être faite et d'être reliée à la question démocratique. Encore une fois, c'est pas une politique en direction des étrangers particulièrement. C'est un regard qu'on doit porter sur l'état de notre démocratie. Et c'est comme ça qu'on peut espérer convaincre la majorité des Français.
Oui, mais est-ce que le moment serait bien choisi aujourd'hui ou partout, même en Europe, on le voit, il y a quand même, le sujet du rapport aux étrangers est quand même très crispé. Est-ce que ce serait pas alimenter, là encore, le Front National et lui agiter sous le nez une sorte d'épouvantail?
Je ne crois pas. Je crois que ce raisonnement qui aurait pu être tenu il y a une quinzaine d'années, quand le Front National était un parti balbutiant qui commençait à grossir, aujourd'hui, je ne crois pas qu'une mobilisation comme celle-là serait de nature à grossir les rangs du Front National. Je pense même plutôt l'inverse. Je pense que expliquer en quoi donner la parole dans la vie démocratique à des gens qui ne l'ont pas, ce qui est vrai pour les élections locales pour des immigrés, mais qui est vrai pour les élections nationales pour tous ceux qui ne se sentent pas reconnus par la vie nationale telle qu'elle est, qu'il faut donc faire changer, c'est un vrai projet de reconquête de milieux sociaux dans lesquels il faut se réimplanter.
Donc de ce point de vue, le discours de François Hollande d'hier sur l'immigration, le premier grand discours de François Hollande sur l'immigration depuis son entrée en fonction à l'Élysée, c'est le bon timing? Parce qu'on a beaucoup attendu ce discours, on a dit mais il va venir quand,
stratégiquement, c'est la fin le bon timing et c'est le premier discours qui en appelle un autre.
Donc c'est le début de l'offensive.
Qui en appelle un autre. Hier, il a affirmé, et heureusement affirmé, un certain nombre de valeurs qu'il faut affirmer, parce que les batailles politiques et les batailles culturelles, ça se mène dans les
pays.
C'est
le discours le plus à gauche qu'il a dit depuis qu'il est élu ?
Je crois que oui, c'était en termes de le référentiel de valeur, oui. Mais c'est un discours qui doit être complété maintenant par c'est quoi une politique d'immigration d'un pays comme le nôtre.
Parce que là, vous parliez de la gauche.
C'est non pas le chaînon manquant d'hier, puisque ce n'était pas son objet, mais c'est quelque chose qui devra être formalisé dans les mois qui viennent.
On parlait de la gauche au pouvoir, là aussi, c'est se heurter au réel.
Oui.
Et à la difficulté de mettre en œuvre une politique d'immigration concrète.
Et c'est la même chose. Là, il faut rentrer dans le réel, regarder exactement la réalité de l'immigration dans le pays aujourd'hui, qui n'est d'ailleurs pas aussi importante que ce que croient les Français, regarder la nature de cette immigration, regarder les problèmes qui peuvent se poser ici et là, et développer des politiques qui soient des politiques à la fois de maîtrise des flux migratoires et en même temps qui soient des politiques respectueuses des individus.
Laure Breton.
En même temps, puisqu'il y a une réforme du droit d'asile qui arrive, il y a une loi sur l'immigration qui arrive aussi en 2015, on a le sentiment que le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, qui soit occupé par Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve, ne communique quasiment que sur les mêmes éléments de langage que la droite. On parle des reconduites, certes qui sont moins militaires, entre guillemets, que quand c'était la droite, mais on ne communique pas sur une autre façon d'envisager l'immigration. Dans la politique de tous les jours, on n'a pas le sentiment qu'il y a une politique de gauche différente sur cette question de l'immigration.
Alors, c'est pas tout à fait vrai sur le texte qui a été adopté cet après-midi à l'Assemblée nationale sur le droit d'asile, qui, de mon point de vue, est un texte qui reconnaît plus facilement et plus nettement les droits de ceux qui demandent l'asile politique en France. Mmh. Ceux qu'ils faisaient jusqu'à maintenant attendaient parfois 2 ans, parfois plus, pour avoir une décision au terme de laquelle ils étaient ou pas reconnus comme séjournant de manière régulière en France. Grâce à cette législation, premièrement, ils auront une réponse sous 9 mois. Deuxièmement, ils auront des hébergements garantis avec une organisation de l'hébergement des demandeurs d'asile. Ils auront un certain nombre de prestations qui sont liées à ce statut pendant les 9 mois. Donc il y a dans le volet de la loi Cazeneuve, sans lâcher sur des principes de maîtrise des flux migratoires, mais une meilleure prise en compte de l'attente de ceux qui demandent l'asile politique.
L'immigration, ce sera un des grands thèmes de la campagne de 2017 à venir. C'est aussi pour ça que François Hollande l'aborde maintenant.
Je ne crois pas. Plus exactement, ça peut être un thème, mais quand on regarde la réalité des choses, et vraiment, il faut toujours, on est sur des flux migratoires qui sont de l'ordre de 250 à 280 000.
On est le pays d'Europe qui a le moins d'immigration.
On est le pays d'Europe qui non seulement a le moins d'étrangers, j'allais dire en stock, entre guillemets, qui sont là déjà, mais qui, chaque année, en a le moins que les autres. Donc, il faut ramener le réel. Il faut arrêter ces débats éthérés sur des perceptions qui sont déconnectées d'une réalité. Je pense qu'il faut réancrer tous les débats dans la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, qu'il n'y a pas des thèmes, qu'il n'y a pas des désaccords entre la gauche et la droite, ou l'extrême droite, il y a des désaccords.
Ça veut dire que d'ici 2017, vous, au pouvoir, la gauche, François Hollande, vous comptez évacuer cette thématique-là pour éviter de vous retrouver confronté en pleine campagne.
Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Si on pouvait évacuer tout ce qu'on a envie d'évacuer pour concentrer le débat sur ce qu'on aimerait.
Vous disiez que les gens prennent conscience en dehors.
Mais c'est pour ça qu'il faut, leur dire. Il faut parler aux Français, non pas du monde, rêver théorique qu'on entrevoit dans l'idéologie abstraite, mais du monde réel tel qu'il est. Et le monde réel tel qu'il est en matière d'immigration, c'est qu'on est un des pays où on a le moins d'étrangers qui rentrent en France, le moins, et on a une part de la population d'origine étrangère qui est la plus petite. Voilà, ça c'est la réalité. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir, c'est la réalité. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, mais c'est ça le point de départ.
Ça veut dire combattre à la fois le discours de Marine Le Pen et celui de Nicolas Sarkozy sur cette thématique.
Oui, je trouve que Nicolas Sarkozy, il change très souvent de position, donc on va voir comment les choses évoluent, mais son retour sur la vie politique n'a pas vraiment clarifié le débat sur ces sujets.
Laure, très rapidement, une toute petite question. Non.
Non, moi, peut-être vous avez entendu ce qu'a dit Zemmour au Corriere della Sera.
Voilà.
Il a parlé il a évoqué la possibilité d'une déportation de musulmans.
Oui, bon, c'est une sinistre dérive d'un individu qui manifestement ne s'appartient plus, appartient à ses fantasmes.
Eh bien, voilà, c'est la fin de la première partie de Mardi Politique. Nous retrouvons Thierry Mandon, notre invité, dans quelques minutes après la pause.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Valérie Gasse.
Bienvenue dans la seconde partie de Mardi Politique. Nous retrouvons notre invité Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Toujours à mes côtés pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24 et Laure Breton de Libération. Thierry Mandon, vous avez une tâche difficile. Vous êtes le monsieur simplification du gouvernement. Une tâche un petit peu ingrate, hein, d'ailleurs, Roselyne.
Oui, et d'ailleurs, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez fait à François Hollande pour mériter ça ? Pour avoir le secrétariat d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Franchement, qu'est-ce que vous lui avez fait pour avoir ce poste ? Parce que quand on voit le compte pénibilité, pardonnez-moi, on a le sentiment que vous complexifiez, vous, le gouvernement. Et qu'avez-vous simplifié, dans le fond, depuis que vous êtes là ?
Alors, vous avez raison de poser cette question qui me permet de mettre le doigt sur le chantier de l'année qui vient en matière de simplification. D'abord, on s'est attaqué au stock de règles existantes, avec des résultats importants. Hier encore, on faisait voter un texte qui a été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale et qui a simplifié beaucoup de choses sur les démarches de vie quotidienne des entreprises, sur le droit de l'urbanisme, les normes dans les logements. Enfin, je rentre pas dans le détail. On a un premier paquet de mesures de simplification pour les entreprises comme pour les particuliers, avec des choses très concrètes, la suppression des certificats médicaux à la rentrée scolaire pour les enfants, des choses très précises. Ça, l'impact chiffré, puisqu'il faut donner des chiffres pour tout maintenant, donc donnons-en un, a été estimé par l'OCDE, par des techniques de l'OCDE, à 2,4 milliards d'euros pour les 18 premiers mois du choc de simplification, 11 milliards d'euros pour l'économie, pour les entreprises, mais aussi pour les citoyens, d'ici 2016. Mais vous avez raison de dire que ça n'a pas de sens de vider la baignoire des normes existantes si on continue à laisser couler le robinet des textes nouveaux. Et le grand chantier de l'année 2015, c'est de réguler les flux, et on pourrait presque dire les flots législatifs nouveaux, de ne plus se retrouver dans des situations où, en enlevant de la complexité, on en rajoute parce qu'on prend des nouveaux textes.
Et le code du travail, il fait 800 pages, vous ne pouvez pas faire 400 pages
Non, mais ça, c'est le code de la construction. D'abord, c'est 3000. Malheureusement, si c'était 800 pages, j'aurais déjà bien travaillé. Et il ne faut pas se tromper sur la simplification. La simplification, ce n'est pas de la déréglementation. Ce n'est pas d'enlever des droits existants. On a toujours le droit d'enlever des droits existants. Ça, c'est des choix collectifs que la nation décide de faire à un moment ou à un autre. Et peut-être qu'il y a trop de protection dans le code du travail, ce n'est pas ce que je pense. Il y a des gens qui pensent qu'il y a trop de protection, et peut-être qu'il faudra déréguler, enlever des droits. Moi, je combattrai ça, mais ce n'est pas ça, la simplification. La simplification, c'est l'inverse. C'est un combat au nom du droit, qui part de l'idée qu'il y a aujourd'hui trop de droits, trop de procédures, trop de complexité, que ceux qui sont puissants, les grandes entreprises, ceux qui ont les moyens de se payer des cabinets de conseil, des avocats, ainsi de suite, ils font toujours leur miel de la complexité, mais que les petits, eux, c'est toujours les victimes de la complexité. Donc c'est au nom du droit, on fait un droit plus simple, plus clair, pour qu'il soit plus efficace. Donc c'est ça notre travail. Mais encore une fois, si nous ne contrôlons pas mieux la fabrique de la loi, et je vais même dire, si on n'améliore pas la fabrication de la loi, si on veille pas, quand on vote une loi, aux conséquences concrètes des décisions que l'on prend, et à des conditions de mise en œuvre, alors on fait pas du bon boulot. Et donc j'ai proposé au gouvernement, je suis en train de travailler à la création d'une autorité indépendante de contrôle de la qualité de la loi, qui justement donnerait, en même temps que le Conseil d'État, un avis public, circonstancié, qui serait composé d'entreprises, d'acteurs du monde de l'entreprise, 9 entreprises, ça existe en Allemagne, ça existe en Angleterre, ça existe partout, et qui donnerait un avis public, non pas sur l'opportunité du texte, ça appartient au parlementaire, mais sur les conséquences concrètes pour la vie des entreprises de cet texte-là.
C'est pas encore un nouveau machin ?
C'est pas un machin, ça existe, c'est le Norman Controllat en Allemagne, c'est le Regulatory Policy Committee en Angleterre, ça existe en Belgique, ça existe aux Pays-Bas. Ça veut dire, ça remet de de la réalité vécue par les acteurs avant que les textes ne soient pris. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Elle arrive, cette réalité vécue, mais elle arrive après. Prenons le compte pénibilité, qui est un droit que je trouve remarquable et qu'il faut défendre.
Et pour la majorité, ça a des conséquences délétères.
Mais on n'arrive pas à le mettre en place.
Non, mais
on n'arrive pas à le mettre en place parce qu'en effet, c'est très compliqué. Donc la réalité, si vous ne l'intégrez pas, si vous ne la lisez pas avant le vote d'un texte, elle vous sort sous le nez après le vote d'un texte.
Mais vous l'avez payé assez cher avec des budgets dont vous n'aviez pas calculé les conséquences.
Voilà, donc moi je propose qu'on modifie la fabrique de la loi et qu'on intègre en amont des textes de loi des évaluations indépendantes, des conséquences concrètes par les acteurs eux-mêmes concernés du texte qui s'apprête à être voté.
Votre autorité indépendante, si elle avait existé il y a une semaine, elle aurait dit quoi sur la loi Macron qui comptait 155 articles ?
C'est pas un problème de volume d'articles.
Alors d'abord, 155 articles et tous un peu disparates.
Loi fourre-tout, a dit Jean-Christophe Cambadélis.
Oui, mais c'est une loi qui, par définition, elle est fourre-tout, puisque c'est une loi qui dit qu'il y a un certain nombre de points de blocage dans l'économie française, des petits verrous qu'il faut faire sauter pour rendre l'initiative possible. Donc par définition, elle est loi fourre-tout. Mais il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale 61% des textes. Écoutez bien cette statistique qui est peu connue malheureusement. 61% des textes qui sont votés à l'Assemblée nationale voient leur taille progresser de 50%.
Quand ils passent au Parlement.
Oui, c'est-à-dire qu'ils sortent du Parlement, ils font 50% de longueur de plus que quand ils sont entrés. C'est-à-dire que le gouvernement a probablement à améliorer la façon dont ils travaillent les études d'impact de ces textes. Ils devraient rendre publics les avis du Conseil d'État. C'est une des réformes sur laquelle je plaide.
Il commence à fuiter quasiment intégralement.
Voilà, donc ça n'a aucun sens. Il devrait demander l'avis à des autorités indépendantes quand il s'agit de l'avis économique. Mais les parlementaires doivent aussi réguler leur travail. Il ne s'agit pas de leur enlever le droit d'amendement, mais pour que la complexité, la lutte contre la nouvelle complexité qui résulte des flux législatifs, eh ben, cette lutte-là soit partagée
par tous. Là, vous n'allez pas vous faire des copains à l'Assemblée et au Sénat, quand même.
Détrompez-vous.
Parce que c'est une partie de leur travail que vous allez leur enlever.
Il y a eu un très bon rapport il y a quelques semaines qui a été publié, écrit par Mme Laure de la Rodière, qui est une députée UMP, et Régis Jeannicot, qui est députée socialiste, qui fait un certain nombre de propositions qui vont complètement dans ce sens. Le président de l'Assemblée nationale a, à leur demande, organisé un colloque il y a une quinzaine de jours, un vendredi, justement pour voir comment on pouvait améliorer la qualité de la loi. Et le fait qu'enfin, le législateur, l'Assemblée nationale, et j'espère le Sénat, se préoccupe du fait que quand on vote des textes, c'est pas mal de regarder très concrètement ce que ça va donner dans la vie réelle, je trouve que c'est un gros progrès et je suis persuadé que l'année 2015 sera sur ce plan-là une année de réforme importante.
Un petit cas pratique sur la simplification. On a parlé du déplacement de François Hollande dans le Nord-Pas-de-Calais et du plan de rénovation urbaine. On dévoile aujourd'hui les 200 quartiers prioritaires et finalement, tout ça n'entrera en application que dans 2 ans, dans 3 ans, 2017, vraisemblablement. On a du mal, le français moyen a certainement du mal à comprendre qu'on parle de quelque chose maintenant et que ça va rentrer en œuvre dans 2 ans, dans 3 ans. Qu'est-ce qui bloque ?
Alors là, il y a deux choses, deux réponses précises à votre question. Premièrement, les procédures, notamment en matière d'urbanisme, restent longues, très longues, et parfois même trop longues. Quand vous engagez un grand chantier de réhabilitation d'un quartier en difficulté, il faut éventuellement modifier le règlement d'urbanisme de la ville, faire une première enquête publique, éventuellement faire une deuxième enquête publique pour vérifier qu'il n'y a pas de problème avec la faune, avec la flore, avec les eaux, avec les sites archéologiques. Enfin, je vous passe tous les détails. Quand vous avez fait tout ça, vous commencez à déposer votre permis de construire. Là, il se trouve qu'il y a 3 riverains qui sont pas contents, donc ils font un recours contre le permis, ça va au tribunal qui met 4 ans pour juger. Puis comme ils sont pas contents parce qu'ils ont perdu, ils font un appel, ils mettent 2 ans avant qu'il y ait un appel. Et comme ils sont encore pas contents parce qu'ils ont perdu, ils vont au Conseil d'État et ça fait 2 ans. Donc on est sur des processus qu'on a décortiqués dans notre travail puisqu'on va faire une loi de modification des procédures d'urbanisme d'ici la fin de l'année 2015. On a eu des procédures sur des grands projets qui peuvent aller jusqu'à 12 à 14 années. Donc ça, en effet, c'est beaucoup trop long. La moyenne européenne, c'est 6 ans. L'objectif d'ici fin 2015, c'est que sans enlever aucun droit à personne, droit à recours, droit à enquête publique, on ramène tout ça à 6 ans.
Donc c'est possible.
Deuxième réponse, elle est plutôt là dans la façon de faire de la politique. Je pense que vous avez raison. La vision traditionnelle de la politique qui dit voilà ce qu'on va faire, donc de l'effet d'annonce, suivi d'une réalisation, d'une mise en œuvre hypothétique 3 ans après,
ça contribue à la déception des gens.
Ça contribue à beaucoup plus que ça. Ça contribue à donner le sentiment que la puissance publique n'est plus puissante, qu'elle est impuissante, et donc ça nourrit, y compris toutes les dérives de ceux qui vont chercher l'illusoire puissance dans des forces politiques protestataires. Moi, je pense que chaque fois qu'on donne une mesure, on doit donner très précisément un calendrier de mise en œuvre de cette mesure, et on doit mettre en place des outils d'évaluation indépendants, du pouvoir politique pour vérifier que les choses ont bien été faites comme cela a été dit. Pour la simplification, c'est exactement ce qu'on fait. On a 50 mesures tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on dit voilà quand elles seront mises en place. Et 6 mois après, on réunit une commission indépendante qui nous dit ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Donc il y a ces deux aspects-là. Des procédures trop longues et des systèmes de communication politique globale qui doivent changer, qui doivent plus être des plans d'action que l'affirmation d'intention sans calendrier.
Laurent Breton. Les gens, vous parlez de cette idée d'impuissance qui est ressentie par les électeurs qui donc désertent les urnes. C'est aussi ce qui nourrit beaucoup le vote Front National. Pour vous, il faut combattre le Front National en améliorant la loi, en améliorant les impacts, mais en luttant contre long programme économique, en le démontant pièce par pièce, ou en faisant des grandes envolées sur les valeurs. Qu'est-ce qui fait qu'on peut contrer la montée de Marine Le Pen avant la présidentielle?
Moi, mon sentiment, quand on a l'occasion d'en parler au sein de ma formation politique, la thèse tout à fait modeste que je défends, c'est qu'il faut redonner à la puissance publique sa puissance perdue. J'espère que la volée sur la réforme territoriale qui vient d'être quasiment votée maintenant définitivement d'une part, un certain nombre d'évolutions dans l'organisation de l'État qu'il faut mettre en œuvre d'autre part, à laquelle je travaille à la demande du Premier ministre, et la reconnexion entre ces deux exercices, réforme territoriale, réforme de l'État, permettra de rebâtir une, entre guillemets, puissance publique beaucoup plus efficace. Efficace parce qu'elle sera plus précise dans sa mise en œuvre, que chacun aura des compétences qui auront été précisées, et efficace parce qu'elle sera simplifiée dans ses procédures, et efficace parce qu'elle sera toujours soucieuse des conséquences concrètes des décisions qui sont prises. Elle se contentera pas d'un métadiscours, mais elle ira regarder chaque fois l'impact précis des mesures prises avec des systèmes d'évaluation, des systèmes de correction. Voilà. Moi, je pense que si on redonne à la puissance publique de l'efficacité, on combat le Front National beaucoup plus efficacement que si on dénonce le programme stupide économique du Front National. Il est stupide, mais
est-ce qu'il faut quand même pas
le
dire?
Je suis pas certain. Mais bien sûr qu'il faut le dire. Non, mais bien sûr qu'il faut le dire. Bien sûr qu'il faut affirmer des valeurs politiques comme l'a fait le président ou l'ont fait le président et le premier ministre ces derniers jours. Mais je suis convaincu que si la vie publique, la puissance publique, la décision publique retrouvent pas une qualité et une sorte de forme de respectabilité, eh bien, je pense que, sur ces décombres d'une vie publique efficace, le Front National se nourrit.
Mais est-ce que Rosine, fond, on a vraiment, vous avez vraiment peur du Front National? Est-ce que, le vote protestataire a toujours existé avant, après-guerre, ça a été les communistes, ça a été défait par l'histoire, ça a été défait par François Mitterrand. Est-ce que dans le fond, il n'y a pas une case comme ça, où il y a toujours eu un vote protestataire, qu'il existera toujours, et que dans le fond, vouloir le combattre, parce qu'il sera toujours là,
c'est plus que peur. Dans le débat politique, j'ai des adversaires, ce qui est tout à fait normal. Mais le Front National, c'est un parti que je crois très dangereux pour la démocratie.
Pensez vraiment que si
je le crois tour, complètement, pourrait... je crois que c'est un parti qui est d'une habileté diabolique, qui me fait penser Marine Le Pen me fait penser à Lady Macbeth, qui disait pour ressembler, pour tromper l'époque, il faut ressembler à l'époque. Je trouve que c'est une grande entreprise de dissimulation d'une réalité qui n'est pas avenante. Et je ne veux pas, en tout cas, mon engagement politique, j'espère que modestement, j'apporterai ma pierre à ne pas voir ce parti aux affaires un jour nationales, parce que j'ai peur pour la démocratie.
Qui a le plus à perdre dans la montée du Front National? La gauche, la droite?
Le pays. Le pays. Je pense que c'est pas la France, tout simplement.
Quand vous voyez
je
les derniers résultats
le
des législatives partielles où le PS est balayé au premier tour comme dans l'Aube et on a un deuxième tour UMP-FN, vous craignez que ça ne se reproduise à grande échelle au départemental, par
évidemment,
exemple?
Évidemment, il faudrait être complètement absurde pour se dire oh bon non, il n'y a pas de risque, tout va bien. C'est l'inverse. Et c'est pour ça que je crois que tant sur les valeurs que sur la décision publique, que sur les questions démocratiques, que sur plein d'autres sujets, il faut repartir à la conquête des couches populaires que nous avons perdues et qui sont les gros bataillons du vote de gauche.
Laurent Breton. On aborde une séquence électorale qui va être lourde pour les socialistes, les départementales en mars et les régionales à la fin de l'année. Pour l'instant, c'est en ordre complètement... c'est une pagaille au niveau de l'union de la gauche. Est-ce que ça, c'est quelque chose que le président doit travailler, que le Premier ministre doit travailler. Est-ce que vous devez faire revenir les écologistes au gouvernement? Est-ce que vous devez donner plus de preuves d'amour aux écologistes pour justement qu'il y ait des listes d'union et que vous contriez un petit peu plus la montée du Front National ou les victoires de l'UMP?
Il faut surtout trouver les terrains de la discorde. Quels sont les terrains de la discorde aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que, avec des forces qui ont commencé le quinquennat avec nous, nous nous sommes éloignés? Je pense principalement aux écologistes. Et je crois qu'elles sont assez faciles à identifier. Il y a bien évidemment le contenu de la politique environnementale elle-même, même si depuis la loi de transition énergétique et le boulot formidable que font Ségolène Royal et Laurent Fabius pour préparer la conférence climat, je pense qu'on s'est rapprochés. Et puis il y a sûrement une question de rapport à la démocratie. En gros, nous sommes, nous, beaucoup trop marqués encore par la culture de la démocratie représentative, dans laquelle des citoyens délèguent à des élus des pouvoirs qui font qu'ils décident vraiment, alors que les écologistes me semblent être beaucoup plus sur des formes de démocratie participative. Je pense que sur ce deuxième terrain-là, la question démocratique, l'année 2015 peut être l'année d'un certain nombre d'initiatives, notamment autour de la refonte des droits sur les enquêtes publiques, la participation des habitants aux grands projets. Et que si on fait ce travail-là, alors oui, il n'y a pas de raison que un certain nombre d'écologistes rejoignent le gouvernement s'ils le souhaitent, si le président le souhaite, si le premier ministre le souhaite. Mais c'est toujours pareil. La politique, c'est des contenus. C'est quelque chose de sérieux. Le divorce qui se fait sur des thèmes qu'il faut identifier et traiter comme tels.
Roselyne,
oui, très vite. Vous avez dit une phrase il y a quelques semaines que j'ai trouvée très cruelle pour François Hollande. Vous avez dit il faut des primaires ouvertes si on veut que la gauche soit au deuxième tour.
Bah oui.
Ça veut dire que vous avez intégré le fait que vraiment vous pouvez être balayé.
Bon, les primaires, il faut plus que j'en parle. Donc je n'en parle plus. Mais il y a une chose dont j'ai le droit de parler, c'est que nous avons une mutation profonde de la vie démocratique du pays qui fait que nous sommes sortis du bipartisme et nous sommes durablement en tripartisme. Mmh. Et ça veut dire une chose qui est très simple pour l'élection présidentielle, il y a un cocu. Voilà, il faut trouver lequel. Dans les trois, il y en a un qui ne sera pas au deuxième tour. Il faut trouver lequel. Et moi, je propose que nous fassions tout ce qui est possible pour n'être pas nous.
Tout faire, c'est pas bien réussir au gouvernement, mais et que François Hollande soit le candidat naturel
évidemment,
de la gauche.
Mais c'est pas une primaire qui nous empêchera. Ça nous donne plus de chances parce qu'on se rassemble avant le premier tour, donc on est plus fort au premier tour. Mais d'abord, soit on réussit, tout partie de ce qu'on est en train de faire, on a les résultats, ça marche, soit on réussit pas et on aura des grosses difficultés.
On arrive bientôt à la fin de cette émission, mais je voulais vous parler quand même de l'histoire des retraites. Aujourd'hui, on a encore eu des petits quiproquos autour de l'allongement de la durée de cotisation. François Rebsamen a laissé entendre que peut-être on pourrait envisager un allongement de la durée de cotisation. Il y a eu deux rapports récemment, un du corps du Conseil d'orientation des retraites, un autre de la Cour des comptes qui disent que tout ça n'est pas réglé, malgré les réformes, celles de l'année dernière notamment. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a une maladresse de la part de François Rebsamen, qu'est-ce que ça veut dire?
Je crois qu'il a précisé sa pensée lui-même quelques minutes après la première expression. Donc c'est le sujet, donc François Rebsamen a dit on toucherait à rien pour l'instant. Ce rapport de la Cour des comptes est ambigu parce que il a une partie qui dit pour les retraites de base il y a pas de problème, au contraire même. La réforme qui a été faite il y a deux ans rapporte plus que ce qu'on pensait, et donc 2030 les systèmes devraient être équilibrés. Le problème demeure pour les retraites complémentaires. Bon, donc ça maintenant on connaît ce problème. Il n'y a pas besoin de paniquer. On est sur des horizons 2025.
Ça, c'est aux partenaires sociaux, c'est pas à l'État.
Exactement. Et on est sur des horizons 2025-2030. Donc je crois qu'il est totalement prématuré d'envisager pour l'instant quelque évolution que ce soit.
Malgré tout, ça veut bien dire qu'il y a quand même un problème qui va se reposer régulièrement.
Oui,
pour les Français. Et vous savez pourquoi?
C'est parce qu'il y a une réalité sur laquelle il faut aussi ouvrir les yeux. C'est que le PIB, depuis 20 ans dans le pays, augmente d'1% par an par tête d'habitant. D'1%. C'est-à-dire qu'on vit tous sur l'illusion du retour de la croissance, alors que ça fait 20 ans que la croissance, il n'y en a plus. Et très probablement, il faut apprendre à penser, là aussi, la réalité, à partir d'une nouvelle conception de la croissance qui sera durablement restreinte.
Eh bien, merci Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification, d'avoir été notre dernière invitée de l'année dans Mardi Politique. Merci à Laure Breton, merci à Roselyne Fèvre qui nous accompagne toutes les semaines, à Audrey Yatoni et Mathias Golchani qui réalisent cette émission, et à dans deux semaines.